Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons cette série d'émissions sur les œuvres de miséricorde. Nous avons dit que l'Église compte sept œuvres de miséricorde corporelle que nous analysons maintenant et ensuite on va commencer les sept œuvres de miséricorde spirituelle. Ces œuvres de miséricorde, on avait dit, sont tirées pour la plupart de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 25, quand Jésus arrivera à la fin des temps et dira que tout ce qu'on a fait au plus petit de ses frères, c'est à lui-même que nous avons fait, donner à manger, donner à boire, etc. Et nous avions dit aussi que ce sont des œuvres d'amour, la miséricorde étant l'amour de charité, donc un amour qui se donne, le don de soi, un amour de charité qui se penche vers la misère de l'autre. Pour cela, œuvre de miséricorde. On avait dit aussi, à chaque fois je rappelle, c'est important, que Dieu a été le premier à accomplir les œuvres de miséricorde. On avait dit que nous pouvons les accomplir parce que nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu, restaurés en plus par le Christ dans le mystère pascal, dans notre baptême qui nous a plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc, concrètement, ça veut dire que c'est parce que nous sommes à l'image de Dieu que nous pouvons accomplir des œuvres de miséricorde. Mais aussi, dans le sens inverse, c'est parce que nous accomplissons des œuvres de miséricorde que nous ressemblons de plus en plus à Dieu. On va ressembler de plus en plus à Dieu en les accomplissant. Et quand on les accomplit, c'est au Christ lui-même que nous avons fait, comme l'évangile de Matthieu nous avait dit. La première œuvre de miséricorde, c'était donner à manger à ceux qui ont faim. La deuxième, donner à boire à ceux qui ont soif. Et nous en arrivons à la troisième, habiller ceux qui sont nus, vêtir ceux qui sont nus. Tout d'abord, je vous invite à une petite réflexion sur la nudité d'un côté et sur le vêtement d'un autre, selon la culture biblique, selon les images décrites par la Bible. La nudité, nous le savons, était le propre de l'homme au paradis. L'homme et la femme étaient nus, ils n'avaient pas honte, puisque le péché, la convoitise ne les avaient pas encore touchés. Ils étaient dans ce qu'on appelle l'innocence originelle. Mais dès qu'ils ont péché, le premier réflexe du péché a été de se cacher, de se couvrir, puisqu'ils ont connu la honte et même la peur vis-à-vis de Dieu, mais la honte vis-à-vis l'un de l'autre. Cela nous montre que la nudité, dans la Bible, après la chute, va être le symbole précisément de l'humiliation, du manque de dignité. Et pour cela, habiller ceux qui sont nus va être vu depuis la Genèse, depuis Noé, quand ses enfants découvrent que son père était tombé, il était nu, ils vont tout de suite, avec un manteau, le recouvrir, au moins deux de ses enfants. Le troisième ne l'a pas fait et il a subi les conséquences. Mais tout au long de la Bible, nous allons voir les prophètes qui vont rappeler qu'il faut vêtir les nus, que si on voit un frère qui est mal habillé, non pas seulement pour le froid, bien sûr, le froid aussi, on le sait, mais vraiment pour un souci de dignité de la personne. Le vêtement est le symbole de la dignité. Adam et Ève, donc, après la chute, quand Dieu découvre qu'Adam s'est caché parce qu'il a eu peur, c'est Dieu lui-même qui a cousu des vêtements pour Adam et Ève. C'est le premier qui a cousu des vêtements. Ensuite, nous savons très bien que le Christ, c'est une des stations du chemin de croix d'ailleurs, le Christ a été dépouillé de ses vêtements. Je pense que dans la scène de la Passion, une des choses les plus humiliantes pour le Christ, plus que les fouets, il y a des choses, vous savez, il y a des choses dans la Passion du Christ qui lui ont fait mal physiquement, qui ont causé de la douleur physique, d'autres une douleur psychologique. Mais le fait d'être dépouillé de ses vêtements, c'est vraiment l'expression de l'humiliation totale. L'Ancien Testament, déjà, dans le livre de Tobie, par exemple, quand le père de Tobie donne ses conseils à son fils, il lui dit « Donne tes habits à ceux qui sont nus ». Le prophète Isaïe aussi dira « De vêtir l'homme nu ». Et dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui dit « Quand vous avez habillé ceux qui sont nus, le plus petit de mes frères, c'est moi-même que vous avez habillé. » Donc, évidemment, il y a un premier côté qui est très concret. Vous connaissez peut-être l'histoire de Saint Martin, qui a beaucoup marqué les esprits chrétiens, l'histoire du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Saint-Martin, qui est durant l'hiver 337 après Jésus-Christ, il était soldat de l'armée royale, il rencontre près de la porte de la ville un mendiant grelottant de froid, à qui il donne la moitié de sa cape. L'autre moitié appartenant bien sûr à l'armée romaine, il ne pouvait pas tout donner puisque ce n'était pas lui. Le Christ lui apparaît la nuit suivante, en songe, vêtu de la moitié de la cape pour le remercier de son geste. Donc ça veut dire que c'est un exemple concret d'œuvre de miséricorde. Nous pensons aussi à l'abbé Pierre, nous pensons à beaucoup de gens qui ont ce souci, surtout pendant l'hiver, mais pas seulement, mais surtout pendant l'hiver, de pouvoir chauffer par des vêtements les personnes qui souffrent du froid. Mais on peut aller plus loin. Vous vous souvenez peut-être, on avait dit pour les autres œuvres de miséricorde qu'à chaque fois, les œuvres de miséricorde corporelles peuvent être interprétées de façon symbolique, tout d'abord de façon concrète, bien entendu, ensuite symbolique, et troisièmement, dans le sens de l'évangélisation. Donc, symboliquement, habiller ceux qui sont nus veut dire donner de la dignité à quelqu'un, plutôt reconnaître la dignité qu'elle a déjà, cette personne, puisque le vêtement est le symbole de la dignité. Pour cela, si je considère la personne, si je lui donne une importance, je suis en train de l'habiller. Je vous donne un exemple très simple, très concret. Il y a des personnes qui sont très âgées, il y a des personnes qui ne peuvent plus travailler, faire beaucoup de choses, produire. Et bien sûr, on va rendre visite, on va aider, on va donner des médicaments, on va les soigner. Mais on peut aussi demander de l'aide à ces personnes. On oublie que les personnes faibles peuvent nous aider selon leurs capacités. Par exemple, imaginez-vous une grand-mère qui déjà ne peut plus bouger, qui est alitée. On peut lui demander des conseils de cuisine. Elle va se sentir importante. On peut lui demander de nous raconter son histoire, de nous aider, de nous conseiller pour telle ou telle situation que nous traversons. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires, mais qui montrent la dignité de la personne, comment nous considérons la personne dans sa dignité. Nous lui donnons de l'importance. Et cela, pour nous, est vraiment capital. Parce que parfois, quand nous accomplissons des œuvres de miséricorde, on peut avoir cette attitude de condescendance. Donc, moi, je suis fort, moi, je suis saint, S-A-I-N, moi, j'ai de quoi manger, de quoi boire, de quoi m'habiller, et donc, maintenant, je dois juste aider l'autre qui ne les a pas, n'a pas ces affaires-là. Mais non, nous pouvons aussi montrer à l'autre que lui, il est important pour nous, qu'il peut nous aider selon sa petite capacité, peut-être. Et rien que de raconter son histoire, ses mémoires, peut déjà lui donner de la dignité. Alors mes frères, je vous invite à aller encore plus loin et à voir dans cette œuvre de miséricorde, habiller ceux qui sont nus, le symbole du baptême. Parce que ce qui nous donne la dignité la plus importante, la plus grande dignité, c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, nous dit saint Paul dans la lettre aux Galates. C'est-à-dire que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons pris le Christ pour habit, pour vêtement. Et le vêtement blanc du baptême, l'aube des prêtres, des servants de messe, nous rappelle cette dignité première, cette dignité baptismale que nous avons tous. Nous savons aussi que dans les différents métiers, nous avons des vêtements différents. Le vêtement propre à l'armée, aux médecins, aux avocats quand ils sont au tribunal, etc., etc. Même les prêtres s'habillent différemment. Donc les habits étant des symboles de dignité, de fonction, dans l'Église, la même chose. Le baptisé qui est habillé en blanc, cet habit blanc rappelle sa dignité d'enfant de Dieu, sa liberté royale. Ça lui rappelle qu'il a revêtu le Christ.
Thank you. Mon père, peut-être quelques précisions encore. Il y a notamment ce passage dans la Passion où, rappelant d'ailleurs un des psaumes, ils se sont partagés mes vêtements, ils l'ont dépouillé de ses vêtements, ils ont partagé ses vêtements. Il y a aussi, toujours dans la Passion et au tombeau, ce passage où un des jeunes hommes s'enfuit nu, perd son vêtement, et un autre jeune homme, ou peut-être le même, je ne sais pas, lui sera au tombeau habillé de blanc. Donc tout ça, ça a certainement aussi une signification. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, très bonne question. On va peut-être reprendre donc les passages que vous citez de l'évangile de Marc au chapitre 14, quand Jésus est à Gethsémani avec ses apôtres, quand il est en agonie, et puis après Judas arrive avec les gardes qui vont arrêter Jésus. Et l'évangile de Marc, il n'y a que Marc qui nous précise cette petite phrase, ce petit verset, verset 51 du chapitre 14. Un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Un détail très pittoresque, très intéressant de l'évangile, qu'on peut effectivement, comme vous disiez, rapprocher du moment de la résurrection, donc cette fois-ci au chapitre 16, à partir du verset 3, qui parle des femmes qui sont allées au tombeau pour oindre le corps du Christ qu'elles croyaient encore mort. Et il est dit ceci: « Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Vous voyez, les commentateurs de la Bible ont fait le rapprochement, puisque en grec, c'est le même terme, « jeune homme », qui fait le lien entre celui qui s'est échappé nu en laissant les draps et celui qui est retrouvé au tombeau du Christ habillé en blanc, pour montrer que quand il fuit la Passion, quand il abandonne le Christ, il perd quelque part sa dignité. Toujours dans ce symbole de la nudité comme humiliation. Mais ensuite, du moment où il a cru à la résurrection, où il a retrouvé la joie de rencontrer le Christ crucifié et d'y croire, joie qui l'a rempli d'espérance, maintenant il est au tombeau habillé en blanc. C'est le symbole de chacun d'entre nous, c'est le symbole du chrétien. C'est-à-dire que plus nous nous approchons du Christ, plus nous pratiquons notre foi, nous approfondissons notre foi, plus nous sommes quelque part habillés, si vous me comprenez bien, plus nous sommes habillés. Ça me rappelle une fois une vision d'une sainte, une mystique, qui avait prié le chapelet tous les jours, et puis ensuite la Vierge Marie lui était apparue pour dire « Tu t'es fabriqué en vêtements, mais bon, il n'est pas encore très beau, je te laisse encore un an. » Et puis elle a prié avec plus de ferveur, concentrée, avec foi et dévotion, son chapelet tous les jours, et au bout d'un an, la Vierge Marie lui apparaît pour dire « Maintenant, ton vêtement est splendide, tu peux entrer avec moi dans le ciel. » Bien sûr, ça fait partie des révélations privées, mais ça nous montre quelque chose, ça nous dit quelque chose de cette dignité nouvelle du chrétien. Dans la tradition de Saint Paul, si nous lisons les lettres de Saint Paul, nous allons voir qu'il souligne avec force que la nudité est l'expression du vieil homme. Et elle disparaît parce que nous avons revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Cela est dans l'Épître aux Colossiens. Par l'intermédiaire de la foi et du baptême, nous sommes revêtus du Christ, comme je disais au début. Donc la nudité ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ, mais elle va toujours être l'occasion pour que le Christ vienne par la bonne nouvelle, par l'annonce de l'Évangile, nous redonner la dignité dans tous les côtés de notre vie. Je disais par rapport aux personnes âgées que nous pouvons poser des questions, demander des conseils, même des recettes culinaires, on peut demander. C'est des choses tellement simples, tellement banales, mais qui peuvent aider la personne à redécouvrir sa dignité. Mais aussi à ceux qui demandent de l'argent, on peut proposer un travail. proposer un travail à quelqu'un, demander à quelqu'un de nous aider à faire un travail, la personne se sent utile, elle se sent digne. Et ça change complètement la donne. Ça aide la personne non pas seulement à recevoir notre charité, mais à se constituer en tant que personne humaine dans sa dignité. Donc, mettons en pratique le plus rapidement possible cette œuvre de miséricorde, comme nous devons faire aussi pour toutes les autres. Et pour finir, je voudrais rappeler deux passages de l'Évangile qui peuvent nous aider à creuser encore plus cette question de l'habit, le symbole des habits. Par exemple, dans la parabole de l'enfant prodigue, je vous rappelle, au chapitre 15 de l'Évangile de Luc, parabole par excellence de la miséricorde, du Père miséricordieux, cet enfant qui avait demandé son héritage, qui était parti de la maison, qui avait tout gaspillé, et qui ensuite, quand il a faim, quand il n'a plus rien, il revient pour demander à son père de le traiter comme un de ses serviteurs, comme un employé de la ferme du père, du domaine du père. Et quand il arrive, quand il est encore au loin, son père, qui ne faisait autre chose que l'attendre, il regarde et quand il voit son fils, il court vers lui, il l'embrasse et il ne laisse même pas finir de parler, qu'il demande à un serviteur d'amener un habit, une bague, des sandales. Donc c'est le symbole vraiment de la dignité filiale qui a été retrouvée. Le fait de lui mettre un habit de fête, de lui mettre une bague dans le doigt et de le chausser des sandales montre bien que maintenant il n'est pas un serviteur, il n'est pas un esclave, mais qu'il est le fils. Il est le fils de son père et il mérite toute la dignité qu'il a retrouvée une fois qu'il avait perdu avant et maintenant qu'il est revenu à la maison. Et un deuxième passage de l'Évangile, pour creuser encore la question de l'habit, c'est la Passion du Christ. Nous avons cité cette station du chemin de croix où le Christ a été dépouillé de ses vêtements. Mais ce n'est pas n'importe quel vêtement. Si vous vous souvenez bien, ils avaient, le psaume 21 le rappelle d'ailleurs, ils avaient tiré au sort ses habits et il avait partagé ses vêtements. Donc c'est vrai qu'il y a un vêtement où le manteau du Christ a été partagé, a été coupé, mais ensuite sa tunique, ils n'ont pas voulu la découper. Pourquoi ? Parce qu'elle était faite d'une seule, sans couture, sans aucune couture, de haut en bas, d'un seul tissu. Et cette tunique aussi est très précieuse. Pour cela, ils vont tirer au sort pour savoir qui allait la voir. Et ça veut dire que le Christ ne s'habillait pas n'importe comment. Le Christ qui menait une vie errante, itinérante, qui ne menait pas une vie de luxe, n'allait pas de façon malpropre. Le Christ, il avait cette tunique sans couture, qui est le symbole du grand prêtre d'ailleurs. Si vous allez voir dans l'Ancien Testament, c'est le grand prêtre qui avait une tunique en lin qui était sans couture. Et donc le Christ montre sa dignité de prêtre, et ça veut dire qu'il marchait, qu'il errait dans le pays d'Israël, non plutôt qu'il sillonnait le pays d'Israël pour annoncer l'Évangile, bien habillé, vous voyez bien, bien habillé, pour montrer que même s'il était pauvre, s'il était simple, il n'était pas non plus dépourvu de dignité, au contraire, c'est lui le Fils unique de Dieu qui nous donne à nous la dignité qui lui appartient en propre. Une bonne journée à tous.
Thank you. Dieu.